Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
L'émission jeune de Radio Présence.
Et bonsoir à tous, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir Frère Benoît Marie, bonsoir Monsieur Yos. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission de Soif d'autre chose, l'émission de Radio Présence par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. Et on va parler de la messe. On est avec Mathéo pour parler de la messe ce soir.
Merci Frère Benoît Marie et Bernard Yos d'être ici ce soir. Frère Benoît Marie, je pense, pour vous présenter rapidement, vous êtes un frère carme, donc c'est un ordre contemplatif et apostolique. Et juste avant de commencer cette émission, vous nous avez parlé de l'importance pour vous de l'amitié avec le Christ, dans l'Eucharistie notamment. Et donc vous, Bernard Yos, vous êtes diacre permanent, si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes père de famille, grand-père également. Vous avez été chef d'établissement et voilà, vous êtes impliqué dans la direction diocésaine du diocèse de Lille. On se retrouve donc ce soir autour de ce plateau pour parler de l'Eucharistie. Peut-être pour commencer cette émission, on peut vous demander, peut-être dans votre vie, dans votre parcours, l'importance de l'Eucharistie et de la messe. Voilà, un petit témoignage rapide.
Alors, je pense qu'il fallait prévoir un mot, réfléchir à un mot. Voilà, j'ai réfléchi toute la nuit à un mot. Non, c'est pas vrai. Hein. Et je me suis réveillé ce matin en disant « communion ». L'Eucharistie, pour moi, c'est la communion parce que c'est à la fois parole et pain de vie. C'est la communion, c'est la présence du Christ en nous, avec nous et surtout au sein de l'Église, l'union et la communion.
Alors moi j'aurais deux mots, bonsoir à vous, salut et amitié. Salut parce que l'Eucharistie, dans la puissance de l'Esprit de Pentecôte, eh bien, rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix, et amitié parce que le fruit de ce sacrifice, c'est de nous réconcilier avec le Père, avec nous-mêmes et avec les autres. Et que cette Eucharistie célèbre aussi, eh bien, dans la communion, eh bien, quelque chose d'un repas pascal et de l'avant-goût de ce qui nous attend au ciel, de la communion plénière qui nous attend au ciel.
Magnifique. Donc amitié, ça veut dire qu'il est bon d'aller à la messe le plus souvent possible.
Ah, c'est excellent. Oui, c'est excellent parce que c'est vraiment dans l'Eucharistie, nous sommes, comment dirais-je, rendus présents, ou nous sont rendus présents à la fois le sacrifice du Christ et la présence de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, mort et ressuscité, siégeant à la droite du Père. En fait, tout ça pour dire qu'il y a tout de notre foi dans l'Eucharistie. Donc, ce serait bête si on prétend avoir la foi, si on aspire à grandir dans la foi, ce serait bête de se priver du cœur de notre foi.
Ouais. Ok, mais du coup, donc il est très bon d'y aller le plus souvent possible, tous les jours, autant qu'on veut. Mais donc l'Église, elle insiste sur la messe du dimanche. Pourquoi la messe du dimanche
et pourquoi du coup, pas la messe de un jour dans la semaine.
Ouais, pourquoi pas la messe du samedi. Et pourquoi est-ce qu'elle est obligatoire? Et oui, est-ce qu'elle est vraiment obligatoire? Ou est-ce que si on la rate, c'est pas très grave
Alors pourquoi le dimanche d'abord? Parce que le Christ est ressuscité le lendemain du sabbat, qui est le dimanche, ce qu'on appelle le dimanche. Donc c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est l'essentiel de notre foi, hein, la résurrection, Saint Paul dit, hein, si il n'y a pas de résurrection, vaine est notre foi. Hein. Voilà, le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection. Et ensuite, toutes ces questions d'obligation, si vous voulez, d'aller à la messe le dimanche, elles sont secondaires. Elles sont, si vous voulez, c'est une question de politique. C'est-à-dire qu'il faut dire, il faut rappeler aux chrétiens que se joue là le cœur de leur foi et de leur salut, et que donc les plus paresseux d'entre eux doivent se bouger un petit peu pour ne pas rater l'essentiel. Mais en fait, c'est une relation d'amitié, d'amour, et voilà, c'est avant tout cela. Donc oui, c'est embêtant de ne pas aller à la messe le dimanche parce qu'on rate cet événement important de la vie de l'Église, qu'on ne nourrit pas notre foi. Donc on s'empêche, plus ou moins volontairement, de grandir dans l'amitié avec le Christ et avec les autres. C'est ballot quand même.
Oui. Non, c'est vrai qu'il y a aussi... on peut entendre parfois des gens qui voient ça vraiment comme une obligation et c'est vrai que c'est triste de voir ça comme une obligation alors que c'est un merveilleux cadeau que le Seigneur nous fait. Et donc, on pourrait... Enfin, pour les gens qui pensent ça, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie? Qu'est-ce qu'on pourrait leur... les arguments, les trucs qui pourraient leur donner envie d'aller à la messe et de voir ça comme quelque chose de beau et pas comme une obligation. Peut-être qu'on peut vous poser la question, Bernard.
Alors moi, je crois que d'abord, je pense que l'Eucharistie, c'est vraiment la source et le sommet de toute vie chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, comme disait le frère tout à l'heure, notre foi est vaine. C'est vrai que c'est différent de la prière personnelle. L'Église est une communauté qui se rassemble. Je crois que la messe, l'Eucharistie du dimanche, c'est complémentaire de la prière personnelle, de tout autre rassemblement. Parce que c'est vraiment un rappel de la Pâque. Mmh. C'est Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte de ce Christ vivant en nous, au milieu de nous. Mmh. Mmh. Et dans une communauté de communion, on n'est pas seul, on n'est pas un croyant isolé. Alors par rapport à votre question sur la possibilité ou le devoir, je dirais pour moi, la messe, l'Eucharistie, c'est un devoir, non pas dans le sens d'une obligation d'être en règle. Voilà. Moi, j'ai été élevé dans cet esprit-là, mais voilà, je suis plus tout jeune. C'était la règle, il fallait aller à la messe tous les dimanches. Si on n'y allait pas, c'était un péché mortel. Voilà. Même si pendant la semaine, on n'arrêtait pas de dire du mal de son voisin, mais on était en règle, on avait été, l'affaire était pliée. Alors, je crois que c'est vraiment un devoir, mais dans le sens d'une nécessité vitale. Et pas seulement, uniquement dans le sens que c'est un commandement de l'Église auquel on obéirait par contrainte. Autrefois, il fallait faire ses Pâques. Il fallait communier au moins une fois dans les 15 jours qui entouraient Pâques. Voilà, je relève un peu de l'histoire ancienne, là. Bon. Et je crois que c'est vrai que la fidélité à cette Eucharistie, c'est aussi une marque qu'on se laisse aimer par Jésus, qui nous aime et qu'on veut aussi le suivre, et le suivre en Église. C'est vraiment quelque chose qui transforme nos vies. Alors je dirais devoir, oui, alors bon, on n'y va pas toujours là où bouche en cœur, tout le monde va avec ses soucis, avec ses contraintes, mais c'est vrai que si on y va parfois en n'étant pas très convaincu, on se rend très vite compte à la messe qu'on est une communauté priante, une communauté rassemblée autour de Jésus-Christ qui est là présent. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà, je ne vais pas vous reciter tout l'évangile, mais c'est un peu ça qui guide un peu ma réflexion.
Il y a une question qui se pose par rapport à l'universalité du Christ, c'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas accessible à tout le monde, en fait.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, votre question? Est-ce que certains en sont vraiment privés?
Les non-baptisés, par exemple, même s'ils ont la foi, n'ont pas le droit de communier.
Ouais.
La question serait pourquoi, alors que le Christ, quand même, a un message universel.
Ouais.
Donc, voilà, c'est la question.
C'est vrai que, il faut bien distinguer les choses aussi. La messe, c'est pas un distributeur automatique, c'est pas un supermarché. Voilà. Donc c'est pas ouvert à tout vent, à qui veut, quand on veut. Maintenant, on est mal placé quand même pour juger le fort intérieur des gens et voilà. Alors moi, parfois je me dis, en donnant la communion, est-ce que je peux donner par exemple la communion à tous ceux qui se présentent? Donc je connais des divorcés, remariés qui se présentent. Bon, je me dis que moi en tout cas, je ne peux pas être juge. Et pour ces gens-là qui me posent la question, je les renvoie à un prêtre. Voilà, pour qu'ils discutent avec lui et qu'ils jugent. parce qu'on aurait vite fait de dire, voilà, lui il peut, lui il peut pas.
Oui.
Il est gentil et lui pas trop. Bon.
Frère Bonhomme Marie, peut-être.
Je crois que c'est au-delà du plan moral, c'est-à-dire que le baptême seul, si vous voulez, nous donne de pouvoir célébrer le culte divin, hein, le sacerdoce baptismal. Nous donne de pouvoir offrir dans le Christ le sacrifice au Père. Et la messe n'est pas que la communion, c'est aussi l'offrande à ce sacrifice. Vous voyez, le sacerdoce baptismal nous donne de nous unir au Christ, et ce Christ est représenté ou, par le prêtre qui récapitule, si vous voulez, toute la demande de ceux qui sont habilités à offrir ce sacrifice, et qu'il offre au Père in persona Christi. Et si vous voulez, donc c'est tout simplement, c'est que dans notre âme, on n'en a pas l'aptitude. C'est pas une question morale. Il n'y a aucune exclusion. C'est simplement que ça ne marche pas, voilà, ou pas comme ça peut marcher en plénitude. Voilà, c'est le je crois le point essentiel. Voilà. Et donc. Voilà. Et d'autre part, l'Eucharistie se propose à des hommes libres, et donc qui doivent, si vous voulez, communier à la foi de l'Église qui célèbre ce sacrement. Donc en fait, il y a une profonde cohérence. Si vous n'avez pas en vous, par grâce, cette aptitude, et si en plus vous ne partagez pas ce qui est célébré, la foi en ce qui est célébré, notamment la présence réelle, la présence, voilà, eh bien, c'est une question, je dirais, de liberté et de responsabilité. Et bien sûr, c'est le rôle du prêtre et de l'Église, à la fois d'insister sur la bonté de l'Eucharistie, mais aussi sur la nécessité pour ceux qui participent à ce grand mystère, de leur responsabilité, de leur liberté. Voilà. Le Christ s'adresse à des hommes libres. Donc ça, je pense que c'est fondamental aussi.
D'accord.
Voilà. Donc si on n'adhère pas à la foi, ce serait incohérent.
Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, on se demande pourquoi ces gens viendraient à la messe. Si ça n'a pas de sens pour eux, voilà.
Et pourquoi on va à la messe, ça fait le lien avec notre interlude musical. On va écouter « Que ferais-je » de Corinne Lafitte. Voilà, c'était « Que ferais-je » de Corinne Lafitte.
Voilà, on est avec frère Benoît Marie et Bernarios pour parler de l'Eucharistie aujourd'hui. En tant que catholique, c'est vrai que pour nous, c'est très important, et on sait, on sait que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Mais très certainement, des gens qui se rapprochent de la foi, qui se rapprochent de la religion catholique, peuvent se poser la question de, en fait, comment ça se fait, d'où ça vient, pourquoi, quoi. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous répondre? Peut-être, Bernard, est-ce que vous avez la réponse?
Moi, la réponse, c'est que ça exige, évidemment, toute une catéchèse. ça existe tout un apprivoisement de la Bible, de la foi. Et je crois qu'on voit bien là le rôle que tient la famille. Voilà, nous, on est à fond dedans, on est convaincus, on est un petit club de gens voilà, qui sont bien imprégnés de tout ça. Mais quand les gens viennent à la messe, ils viennent un peu de nulle part. Et c'est très respectable, voilà, parce qu'ils n'ont souvent pas eu l'éducation, la chance de connaître Jésus-Christ. Après, je trouve que si on, voilà, il faut de la catéchèse et je ne sais pas si c'est le cas dans votre diocèse, mais nous, on n'a jamais eu autant de catéchumènes que cette année.
Oui.
Donc, on a une approche un petit peu nouvelle aussi, mais il faut que les gens, il faut former ces gens, il faut leur montrer que Dieu les aime. Je trouve que cette messe, ça fait partie aussi de la vie courante, de toute la vie. Je crois que, voilà. Pour moi, bon, je le dis souvent aussi aux parents des futurs mariés, aux jeunes mariés, je dis vraiment, notre ADN de chrétien, c'est être aimé, se savoir aimé, accepter que Dieu nous aime et rayonner cet amour autour de nous. Alors, il y a la messe, bien sûr, et il faut essayer de rentrer par différentes orientations. Par exemple, la messe, bon, il y a le geste de paix. C'est important aussi, on introduit les gens qui sont extérieurs à notre désir profond, qui ne sont pas vraiment des convaincus. Il y a la prière universelle, où on peut également introduire les intentions des uns ou des autres, le geste de l'offertoire. Voilà, je crois qu'il faut que les gens présents à la messe sentent qu'ils sont impliqués, que la messe n'est pas tournée vers eux-mêmes, vers l'Église, mais vers le monde. On est là pour le monde, on n'est pas là pour nous. Donc je crois que c'est un effort de catéchèse, mais ça commence jeune aussi. Hein. On ne va pas révolutionner le monde, même si l'Esprit Saint y met toute sa force, parce qu'on a décidé de le faire. Hein. Il faut que, voilà, qu'un peu à la fois, les gens voilà, acceptent les messages, qu'ils se forment et que l'Esprit travaille bien sûr aussi. Hein. Donc, voilà, je dirais que comment faire bon, pour ceux qui pratiquent très peu, qui viennent de temps en temps, pour les enfants qui se préparent à la communion aussi, voilà, c'est peut-être insister sur tel ou tel point, voir dimanche après dimanche un aspect important de la messe. On ne peut pas tout comprendre en même temps, bon, on ne peut pas tout expliquer non plus.
Très bien. Merci. Moi, j'ai une petite question pour vous deux, en fait, frère Benoît-Marie et monsieur Yos. Bon, nous, on est catholiques, quand on va à la messe, on est des fidèles et on est concélébrants de la messe. On participe grâce aux prêtres qui célèbrent la messe. On participe à la messe, on n'est pas juste là pour assister à la messe. Et comment vous, en tant que prêtre, et vous, monsieur, en tant que diacre, vous vivez la messe ?
C'est le plus grand moment de ma journée. Vous rendez compte ? Par la grâce de mon sacerdoce, je célèbre la messe dans la personne même du Christ-tête. C'est-à-dire que le Christ passe par mon être pour que le pain et le vin deviennent son corps et son sang. Enfin, c'est bouleversant.
Oui.
En fait, c'est pour ça qu'on devient prêtre. Vous me parliez hors antenne de l'obligation. On avait l'obligation ou pas de célébrer la messe tous les jours. Mais c'est tellement grand que on ne peut pas s'en passer. Voilà. Moi, ma vie, c'est d'abord célébrer la messe et dispenser tous les mystères du salut. Parce qu'en fait, pourquoi je célèbre la messe ? Pourquoi est-ce qu'on rentre en amitié avec les gens éloignés ? C'est pour participer, contribuer à leur salut,
oui.
En fait. C'est que le Christ, comme le répétait le Saint-Père, est l'unique sauveur. Et que c'est ça qui fait que c'est pas comme partout ailleurs. Et dans la messe, eh bien, je célèbre le mystère dans la personne même du Christ, en communion au nom de vous tous. Au nom de vous tous. Eh bien, je célèbre la messe pour que quelque chose du salut du monde continue de se diffuser. Et pour tout le monde, effectivement, parce que le Christ est venu pour sauver tout le monde. Voilà.
Ça donne envie de devenir prêtre. Et vous, monsieur, en tant que diacre permanent, comment vous, parce que vous, il me semble pas qu'on puisse dire que vous célébriez la messe.
On célèbre, hein, je concélèbre donc en tant que diacre, en tant que signe du Christ serviteur. Et là, c'est important aussi parce que quelque part, même si à certains moments de la messe, je ne fais rien, je suis à 3 mètres derrière l'autel, mais je représente un peu tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui ne veulent pas venir, voilà, toute l'assemblée pour lesquelles je porte aussi le souci dans le courant de la semaine. Hein, je crois que à la fois la prière universelle, la prière eucharistique, tout ça rassemble aussi tous ceux qui sont pas forcément d'église, ceux qui sont à la marge de l'église. Mais évidemment, pour intégrer ces gens-là pleinement dans la messe, on peut pas le faire comme ça de but en blanc. C'est pour ça que, par exemple, je célèbre beaucoup de baptêmes et de mariages. Bien sûr, certains demandent une eucharistie, c'est parfait, c'est formidable. Mais pour la plupart, qui ne savent même pas ce que c'est, c'est peut-être pas le moment d'assister tout de suite sur l'Eucharistie. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses de la vie chrétienne qui sont à mettre en valeur et qui peuvent être prises après, au cours d'une Eucharistie. Sinon, ils mélangent tout et c'est compliqué pour eux. Parce qu'il faut bien voir que nous, ici, on fait un cercle un petit peu restreint quand même, même s'il est très fort, mais qui n'englobe pas une majorité de gens. Vous savez, actuellement, à nous, en tout cas, on vit dans un contexte très indifférent à l'Église, voilà. Et on essaie de mettre en valeur ce qu'ils peuvent vivre au niveau humain pour que ça ait du sens pour eux, voilà. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, bon, la messe est bien sûr importante, mais c'est relié aussi, par exemple, aux prières donc de l'Aude et de Vêpres que je récite tous les matins, tous les soirs avec mon épouse. Voilà, à des autres temps de prière, bon, quand on va visiter des malades, bien sûr que l'Eucharistie est présente, même si on ne la vit pas directement avec ces personnes-là. Mais tout ça, ben, on le ramène aussi à la messe du dimanche, ouais, une autre messe.
Merci
donc
beaucoup.
C'est toute la vie chrétienne qui doit être imprégnée de cet amour de Dieu. Ouais, j'ai peut-être parlé trop là, non ?
Pas de souci, non, il n'y a pas de souci, c'est très intéressant, hein, justement. Mais on va s'adresser au frère Benoît Marie.
À la messe avec le frère Benoît Marie.
Et du coup, d'un point de vue un peu mystique, quelle est la symbolique de l'hostie? Quand on dit que Jésus est présent dans l'hostie, quand on parle du corps et du sang du Christ, et aussi d'une manière plus prosaïque, c'est une question que certains assoiffés peuvent se poser, pourquoi on reçoit que l'hostie et pas le vin?
La première question, qu'est-ce qu'il y a sous l'apparence du pain et du vin? Il y a tout Jésus, Jésus vrai Dieu, je l'ai déjà dit, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité, glorieux. Il y a vraiment quelque chose d'immense. Donc c'est, si vous voulez, le curé d'Ars disait que si le prêtre, sous-entendu le prêtre célébrant les saints mystères, donc le mystère de l'Eucharistie, prenait vraiment conscience de ce qui est célébré, il en mourrait.
Ouais.
Donc en fait, c'est un peu ça le message que je voudrais vous laisser. C'est-à-dire que vous avez quelque chose d'immense. Donc, rentrer dans cette dimension, dans cette adoration de ce qui se passe voilà, dans cette Eucharistie. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne communique au corps pour des raisons pratiques? Parce que, voilà, et saint Thomas montre très bien qu'il y a dans le corps à la fois le corps et le sang du Christ. Il y a toute la personne du Christ. Donc, rien ne vous est enlevé au niveau de la substance, si vous ne prenez que le corps du Christ. Par contre, au niveau du signe, effectivement, c'est un peu plus pauvre que quand il n'y a pas aussi le précieux sang. Mais voilà, vous avez tout, donc ne vous en privez pas, de grâce, ne vous en privez pas.
Merci beaucoup pour ces réponses. On va arriver vers la fin de cette émission déjà. Et donc, on va écouter la chronique de Louise.
Sanctus. La chronique de Louise.
Donc aujourd'hui, en lien avec le thème du jour qui était l'Eucharistie et la messe, je voulais parler du bienheureux Carlos Acutis qui va bientôt être canonisé. Donc je me disais que c'était chouette de faire une chronique sur lui pour l'expo aussi qu'il avait fait sur les miracles eucharistiques. Donc Carlo Acutis, il est né en 1991 de parents italiens. Et il a grandi à Milan, et déjà très jeune, il est apprécié de tous. Et il récite avec ferveur le chapelet, il va à la messe tous les jours depuis sa première communion quand il a 7 ans. Et son recueillement, quand il communie, il impressionne tout le monde. Et déjà, d'être très jeune, il est hyper sociable. Et quand il va à l'école, par exemple, en chemin, il s'arrête pour discuter souvent un peu avec les concierges étrangers qui n'ont pas trop l'habitude qu'on leur parle. Et il vient vraiment discuter, partager avec eux. Il va aussi partager sa foi, par exemple, avec un employé de sa maison qui est d'origine indienne, qui s'appelle Ranesh, et qui va être impressionné par sa connaissance du catéchisme. Et il va se convertir en suivant l'exemple de Carlos. Son tact va lui permettre aussi de se mettre au niveau vraiment des personnes avec qui il parle de sa foi pour les amener à partager sa foi. Et ses camarades de classe, par exemple, qui l'ont connu, ils disaient qu'il était tout le temps joyeux, prêt à les aider quand ils avaient des difficultés. Et par exemple aussi, l'un de ses talents, c'était l'informatique. Et il n'hésitait pas vraiment à aider les gens à utiliser Internet et des choses comme ça. Et il a toujours utilisé son talent pour répandre la foi et aider les autres. Il va d'ailleurs créer un site Internet qui ressemble tous les miracles eucharistiques pour partager sa dévotion au corps de Jésus. Il est toujours aussi très soucieux, par exemple, des âmes du purgatoire. Et il a une très bonne connaissance du catéchisme de l'Église qui va vraiment impressionner toutes les personnes à qui il va parler. Malheureusement, à 15 ans et demi, il va tomber malade d'une leucémie et mourir assez brutalement en offrant ses souffrances à Jésus. Donc moi, ce qui m'avait beaucoup touchée dans sa vie, c'est d'abord l'expo qu'il a fait sur les miracles eucharistiques. Parce que l'Eucharistie, c'est vrai que c'est un mystère qui est tellement grand que souvent ça peut être un peu difficile à percevoir. Moi, j'avais du mal à croire, par exemple, en la présence réelle, et j'avais lu un livre sur Carlos Acutis. Et ça m'avait donné envie de me renseigner sur cette question et de chercher un peu sur les miracles eucharistiques. Et c'est vrai que c'est des miracles qui sont vraiment incroyables. Enfin, c'est des hosties qui deviennent de la chair, des taches de sang, comme à Lanciano ou à Buenos Aires. Et maintenant, avec les moyens scientifiques qu'on a pour analyser un petit peu ce qui s'est passé, les découvertes sur les miracles, elles sont vraiment folles. Et par exemple, en comparant, on trouve des similitudes avec le groupe sanguin, avec le linceul de Turin et entre tous les miracles. Ou alors des morceaux de la chair qui, en fait, est un tissu du myocarde du cœur dans les hosties transformées en chair. Et vraiment, c'est assez incroyable. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre ce mystère et à quel point Jésus nous aimait. Et aussi, deuxième point que je voulais faire, en fait... Ce saint, vraiment, enfin, c'est bien heureux, il va bientôt être saint. Il avait l'air vraiment très sympa et juste hyper jeune. Et c'est vrai que c'est le premier saint où, quand j'ai lu son livre, j'étais assez jeune, je me suis sentie proche de lui. Et c'est vrai que quand on regarde les photos et les vidéos de lui, ça se voit vraiment dans la pureté de son regard, toute la joie qu'il avait à être chrétien. Et dans les témoignages, ce qui m'a frappée, c'était vraiment à quel point il était accessible par tout le monde. Il faisait partie, je pense, de ces personnes un peu qu'on connaît tous et qui font rayonner la joie de Dieu, d'être aimé de Dieu juste par leur présence. Et on voit, et ça se voit dans leurs yeux, et c'est le plus beau exemple de témoignage de foi. Et je voulais terminer par cette phrase de Carlos Acutis qui disait que pour lui, l'Eucharistie, c'était l'autoroute vers le ciel.
Merci beaucoup, Louise, pour cette chronique toujours très intéressante et très pertinente. On vous remercie infiniment, frère Benoît-Marie et Bernard, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir discuté avec nous de ce sujet très, très passionnant qui est l'Eucharistie. Pour tous ceux qui nous écoutent, on vous invite à retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes de podcast ainsi que sur le site de Radio Présence. La semaine prochaine, on parlera du pape. Voilà, et donc merci encore à tous et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.